rendez-vous culture des bibliothèques de Compiègne.
Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission du rendez-vous culture des bibliothèques. Aujourd'hui, nous parlons des livres qu'on a lus, qu'on a aimés et qu'on a envie de vous faire découvrir. Deux romans historiques qui traitent à peu près de la même période à notre programme. Le tatoueur d'Auschwitz d'Isaac Morris et Les guerriers de l'hiver d'Olivier Norek. Nous parlerons aujourd'hui de poésie, une fois n'est pas coutume, avec Le chant du silence d'Emmanuel Vilsain. Puis deux romans bien différents mais non moins intéressants, Âge tendre de Clémentine Beauvais et La petite bonne de Bérénice Pichat. Puis, nouveauté aussi, nous vous présenterons une nouvelle autrice qui est compiénoise et même collègue puisqu'elle travaille au Conservatoire municipal de Compiègne comme professeure de chorale et d'enseignement musical. Voici Aurélia Bélanger que nous avons le plaisir de recevoir dans le studio de Graphite pour nous parler de son premier roman, Les couleurs d'Héléna. Bienvenue Aurélia.
Merci de m'accueillir.
Et tout d'abord, Aurore nous confie son coup de cœur pour Le tatoueur d'Auschwitz.
Eh bien oui, déjà un peu plus tôt dans l'année, j'avais proposé le roman inspiré de faits réels qui s'appelle La sage-femme d'Auschwitz. Et cette fois-ci, eh bien, nous voici avec Le tatoueur. Il s'agit d'une histoire pardon, qui est 100% vraie. Si La sage-femme était inspirée de faits réels, là, Le tatoueur, on est sur une histoire 100% authentique. Alors, j'avoue que je n'en étais pas sûre. Avant de me rendre compte d'un détail, quand j'étais en train de lire, c'est qu'il y a peu de dialogue dans ce livre. Et quand ce détail m'a frappée, en fait, c'est là que j'ai compris. On peut raconter des années après un morceau de vie, mais on ne peut pas déformer. Si on ne veut pas le déformer, il faut que le dialogue soit le plus restreint possible, puisqu'on ne peut pas reporter les paroles de quelqu'un qu'on aurait oublié ou qui était il y a longtemps. Donc on peut juste raconter des faits et des choses qui se sont passées, qui sont vraiment bien fraîches encore dans la mémoire. Isaac Morris, c'est une autrice et une journaliste. Elle nous raconte le témoignage poignant de Lal, juif, oui, mais slovaque avant tout. Lal ne se laisse pas définir par sa religion. Mais quand on demande à chaque famille juive d'envoyer un de leurs membres dans un camp de travail allemand, Lal ne rechigne pas. Il prépare sa valise avec l'aide de sa mère et monte dans le train pour Prague, d'où on l'enverra finalement à Auschwitz dans des conditions assez inhumaines pour lui donner le ton de la suite. Lal est malin. Il est observateur, intelligent et polyglotte aussi. Il comprend et sait parler l'allemand, le russe, en plus de sa langue natale, et du yiddish. Il saisit rapidement l'importance de faire ce qu'on lui dit pour rester en vie. Il sait en tirer parti jusqu'à être nommé tattoo viewer, tatoueur. Même si ça ne lui plaît guère de tatouer hommes, femmes et adolescents qui arrivent au camp, ce statut lui confère quelques avantages dont il essaie de faire profiter d'autres détenus. Ses camarades de bloc, bien sûr, mais aussi quelques camarades féminines d'un autre bloc, dont la belle Gita, que Lal a remarqué depuis son arrivée. Depuis qu'il l'a tatouée, d'ailleurs. Entre minuscules moments de joie volés à cet enfer du camp, Lal et Gita tentent de survivre en s'imaginant qu'un avenir est possible à ce présent qui les affaiblit de jour en jour. C'est directement de la bouche de Lal que l'autrice a récolté les informations suffisantes à l'écriture de ce roman biographique poignant. Il lui aura fallu d'ailleurs 3 ans pour compiler et mettre en perspective les souvenirs de Lal avec les faits historiques connus pour faire de ce témoignage de vie quelque chose d'extraordinaire qui s'incruste vraiment dans l'histoire que l'on connaît. C'est vraiment une petite pépite et il y a aussi comme un petit bonus à la fin de ce roman qui est la postface. La postface, est-ce que je le dis ça bien là, postface?
Oui, ça me paraît bien.
Alors du coup, je ne vous dis pas en quoi consiste cette postface, mais sinon ça serait vraiment un gros spoiler pour l'histoire de Lal et de Gita. Mais voilà, il y a un bonus. Et voilà, si on pourrait penser que les histoires d'amour autour d'Auschwitz se suivent et se ressemblent, parce que ce camp est tristement célèbre et qu'on sait à peu près tous comment ça se termine à chaque fois, Et qu'il n'y avait pas non plus d'activité si foisonnante que ça pour les détenus, ben je vous assure que tous les témoignages que j'ai pu lire, que ce soit sur l'histoire de la sage-femme, l'histoire de ce tatoueur, ça s'imbrique vraiment les uns aux autres et ça dévoile tout un tas de facettes. Alors bien sûr, ce sont des facettes de l'horreur, mais ça donne toujours un angle nouveau et un petit éclairage supplémentaire. J'ai même une autre collègue, Anne, qui m'a parlé du livre de la bibliothécaire d'Auschwitz. Oui. Donc il se pourrait bien que l'une de mes prochaines recommandations soit encore un autre métier qu'il y avait dans ce camp.
Et une autre facette encore, c'est avec le film « La zone d'intérêt ». Qui est adapté du livre de Martine Amis, donc qui parle des voisins du camp de concentration.
Ah oui, je suis pas allée le voir, mais ça me c'est assez récent, c'était au cinéma il y a encore.
Mais on l'a déjà en DVD à la bibliothèque.
Allez.
Et oui. Et un très bon film, glaçant mais très bien aussi, comme le tatoueur d'Auschwitz. À lire donc. Merci Aurore. Alors moi on va rester dans la guerre, mais une autre, avec les guerriers de l'hiver. Donc c'est un récit de guerre d'Olivier Norek. Bon, je vous le dis d'emblée, je ne suis absolument pas attirée par les livres historiques, et encore moins de guerre. Mais Olivier Norek est un écrivain dont j'adore les policiers, que ce soit à la trilogie 93 ou Entre deux mondes, ou dans Les brumes de Capelan, dont j'avais déjà parlé lors de la précédente émission. Et la surprise, il a réussi à me captiver littéralement, 400 pages durant, avec cette histoire de guerre entre l'Union soviétique et la Finlande pendant l'hiver 1939-1940. Une guerre méconnue qu'il va nous raconter avec une précision documentaire et en même temps un souffle épique époustouflant. On y apprend énormément de choses. L'auteur s'est documenté de nombreuses années pour la retranscrire de la façon la plus fidèle possible. L'alternance de points de vue permet de saisir la globalité du conflit. On découvre la vie quotidienne des soldats, on plonge dans les batailles hyper réalistes, on bifurque vers une réunion des états-majors où les stratégies sont mises en place, chacun étant à la merci d'un pouvoir totalitaire. On prend conscience des décisions qui peuvent tout faire basculer, des manigances, des enjeux politiques derrière certains choix et de la folie des grands hommes. Il met constamment en évidence l'absurdité de la guerre. Et une guerre surprenante entre ce pays grand de 180 millions d'habitants et ce petit de 3 millions d'âmes, un conflit déséquilibré a priori. Staline pensait n'en faire qu'une bouchée en une dizaine de jours tout au plus. Eh bien, il a été bien surpris, car ce conflit a duré pas moins de 105 jours. Olivier Norek retrace la résistance héroïque de la Finlande, qui a d'abord résisté grâce à son climat, la nature, tout simplement, sublime mais inhospitalière. Les soldats russes n'étaient pas préparés pour affronter moins de 50 degrés. Puis, grâce à des combattants qui n'avaient plus rien à perdre. C'est le courage d'un peuple bien décidé à défendre son territoire. On parle du fameux Sisu, cet esprit de résistance finlandais. C'est une ténacité et une détermination très profondes. Et il se concentre sur la figure légendaire de Simo Eija, un jeune paysan qui avait la particularité d'être très doué pour le tir, qu'il avait appris en allant chasser avec son père. Il est rapidement devenu tireur d'élite redoutable grâce à son talent exceptionnel, jusqu'à devenir un véritable symbole de cette guerre d'hiver. Les Russes le surnommaient la mort blanche. À lui seul, il terrorisait toute l'armée russe. C'est un sniper qui, avec son propre fusil de chasse, pouvait tirer à 490 mètres sur un soldat russe. Sa capacité inouïe va changer le cours de cette guerre, dont l'issue semblait pourtant courue d'avance. Un héros de guerre et aussi un héros littéraire extraordinaire. On est transporté avec lui dans les horreurs du conflit et dans ses tourments, d'autant plus attachant qu'il a de profondes valeurs humaines. Il fait preuve d'une solidarité et d'un dévouement très poignant. C'est aussi une très forte histoire d'amitié, une très belle histoire d'amitié que nous raconte Olivier Norek. Il nous embarque dans une aventure terrible et qu'on n'est pas prêt d'oublier. On va parler de poésie maintenant, avec le recueil de poèmes « Le chant du silence » et grâce à Yann.
Ça va nous alléger un petit peu, là, après deux récits de guerre, un petit peu de...
La chair du silence.
La chair du silence.
Et oui. Je suis l'île noyée de larmes et d'amertume. Viens me chercher. Viens me prendre. Délicieusement chair d'aucune chair. Entre en moi, pimenter ta sauce, ta dose. Quelque chose comme un voyage d'île oiseau, une religion, une secte. Addiction éternelle de l'âme qui raille le corps injuste immobile. C'est notamment ce poème qu'Emmanuel Vilsain vient de faire paraître aux jeunes éditions Milo, son dernier ouvrage de poèmes intitulé « La chair du silence ». Ce poète et comédien se fait un nom dans le monde littéraire sous le titre de poète brasseur. Haïtien et définitivement amoureux de la culture francophone et française, il brasse le langage, les couleurs de la voix et la musique du silence pour nous offrir une palette en perpétuelle mutation de sa vision humaniste et enchantée d'un monde d'une brutale réalité. Une palette où copule sans vergogne toute la culture poétique française et toute la culture haïtienne. Mario Benjamin, l'illustrateur de la couverture et peintre haïtien, a bien saisi l'univers du poète brasseur. Les lignes du portrait miment le brassage du langage pour nous offrir une illustration du poète, du monde, de Haïti, de l'enfance, de l'amour et de la mort. Et ce, non pas dans un éclatement de la vie en partie, mais en un bloc de volute langagière pleine de peintures raturées par l'expérience. Car la poésie de Vilsain est, ici encore, celle d'un tout qui se chamarre, qui se vitraille dans la lumière du langage. Que ce soit dans le liminaire, dans la voix chanterelle, dans Danser Satan ou dans Trône, qui sont les différentes parties de cet ouvrage, car le terme « ouvrage » correspond mieux à cette vie que le terme « recueil » qui enferme, qui sont trop le cercueil littéraire. Le poète brasseur chante en silence, dénonce avec un fervent engagement politique les dérives de cet occidentaliste argent et crée misère. Il descend, il remonte la figure immémoriale du poète. Comme l'attestent ces petits poèmes de cet ouvrage. Je vais au grand jour tromper le regard des forces de l'ordre économique. Je vais au grand jour. Avant même que je sois sous surveillance, j'aurais déjà, de toutes mes forces, piaffé, craché, piétiné la croix de ma vieille mère endettée pour n'avoir cessé de gaspiller le vide. Nous sommes si beaux dans nos costumes de paon, nous nous sommes vêtus, comme chaque matin, pour aller acheter puis revendre le monde. C'est ce qu'on appelle l'ordre et le progrès, forcément, économiquement, à chacun son 4,40. Comment va votre 4,40, madame ? Bien, mon beau monsieur, mais qu'adviendrait-il si nous perdions le triple A ? Satan est dans la ville. Il n'est pas à son dernier repas du vide. Il a déjà bu tout le sang canaillé dans nos détritus et mangé dans le crâne du jour l'ennui de notre innocence. Il nous l'a fait fabriquer, il nous l'a fait porter, le museau de l'homme enchaîné. Satan est dans la ville. « Nagez, nagez !» il nous dit. Des bouteilles emportées sur le matelot, des bouteilles à SOS, de vertige. « Nagez, nagez !» Poète, je ne veux plus de leurs cachots en plein air, leur langue dénonciatrice, leurs mots pompeux, leur civilisation sauvage, leur justice tronquée, leur intégration d'acheteurs de figures. Ou encore, du haut de sa cime, indicible balustrade, magnifiée d'un trop-plein de lumière, d'amours élevés, s'ouvre sur la scintillante page le droit brûlé d'absintes épines, morsure énigmatique du temps, fugace désir. C'est l'hydre des têtes d'affiche, des mesures folles, des rasames en rut, le voile d'épaulettes ferrées, d'où miroite la beauté des pierres. Fidèle à lui-même, il brasse les figures occidentales et créoles, sans hiérarchie, sans folklore, mais avec une énergie qui déborde. Emmanuel Vilsain est aussi corps que sa poésie, et dans ce dernier brassage, on peut se demander s'il brasse le monde ou si le monde le brasse et nous offre son dernier autoportrait corporel langagier.
Et du coup, il n'y a pas de « mais » parce que d'habitude, quand tu proposes quelque chose, il y a toujours un « mais ».
Ben non, parce que déjà, on est en novembre.
Ah, pas faux. Tu t'en sors bien sur ce coup-là.
Merci.
Le rendez-vous culture des bibliothèques de Compiègne.
Eh bien, je vais reprendre la suite de Yann avec un roman pour adolescents qui s'appelle H tendre de Clémentine Beauvais. Alors, quand on m'a proposé de lire Clémentine Beauvais, j'étais super contente. C'est une prof de français avec qui je travaille durant cette année scolaire qui m'a proposé ça parce qu'elle va me confier 3 classes pour un projet autour de l'autobiographie. Et elle m'a dit je vais faire lire H-Tend aux élèves. Je me suis dit, ben voilà, c'est une super occasion pour moi aussi de le lire. Oui, parce que Clémentine Beauvais, bah, elle a gagné des prix. C'est une Française qui fait de la traduction, pour ceux qui ne la connaissent pas, notamment connue pour avoir traduit l'Ichabod de J.K. Rowling. Et elle est enseignante-chercheuse dans une prestigieuse université d'Angleterre. Et bien sûr, elle est autrice. Donc voilà, me voilà plongée dans H. Tendre. Alors, après une énième réforme de l'éducation nationale, tout élève doit faire une année de service civique après son année de troisième, quelque part en France. Valentin, notre vaillant élève, n'a pas de chance. Évidemment, sinon ça serait pas drôle. Ses vœux ne sont pas du tout respectés. Donc il fait des sortes de vœux comme sur une sorte de parcours sup du service civique. Et lui qui est originaire d'Albi, dans le sud, est envoyé dans le Pas-de-Calais. Ça vous rappelle un film ? Alors, lui, il rêve de travailler dans un lieu tranquille, comme dans une médiathèque. Et il se retrouve dans un centre pour personnes âgées atteintes d'Alzheimer. Là, tout de suite, on sent que ça se complique. Sa première mission, pourtant, elle semble assez simple. Il doit écrire une lettre à une pensionnaire qui a répondu à un concours dans « Salut les copains » de 1967 pour lui annoncer que, malheureusement, Françoise Hardy ne va pas pouvoir venir chanter dans leur ville. Voilà, cette partie-là, c'est pas très compliqué. Sauf que Valentin, ben, c'est insensible. Et c'est difficile d'annoncer une telle mauvaise nouvelle à une vieille dame qui attend sa réponse avec autant d'impatience. Alors, ben, il annonce l'inverse. Françoise Hardy viendra. Sauf que bah, maintenant, il a une autre mission, Valentin. Trouver un sosie de la star qui vienne chanter son tube « La maison où j'ai grandi » à tous les pensionnaires du centre. Si l'intrigue de base est plutôt mignonne, l'écriture de Clémentine Beauvais est originale. Le roman prend la forme de la demande initiale que Valentin fait lorsqu'il explicite ses vœux, puis continue sous la forme du rapport qu'il doit faire à l'issue de son service civique d'une année entière. Donc on y voit les instructions précises qui guident son récit écrit au jour le jour, tout autant que les notes rétrospectives qu'il ajoute en fin d'année au moment où il se relie. Ces notes nous éclairent sur la façon dont notre Valentin va évoluer au fil de cette année de césure. Parfois aussi, elle participe au suspense du récit. Parce qu'il nous dit des trucs, mais il ne nous les dit pas vraiment. Quoi. Donc du coup, il faut qu'on continue de lire. Et voilà. Il y a un petit côté suspense dans ses notes. Et cette forme d'écriture, qui reprend vraiment les codes des adolescents, qui ne sont ni écrivains, ni même particulièrement littéraires, m'a aussi fait penser aux essais que pouvait faire Loulipo dans les années 60. Il y a quelque chose d'assez expérimental, j'ai trouvé en tout cas, dans le roman de Clémentine Beauvais. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'elle est enseignante-chercheuse, j'imagine. En même temps, ça rend le récit tout à fait attractif pour son public cible, que sont les ados. C'est donc très malin. Ensuite, j'ai trouvé que le sujet de fond, celui qui tisse finalement toute l'histoire, lui aussi, il était original et traité avec sensibilité. Attention, j'ai pas dit sensiblerie. Le centre dans lequel travaille Valentin s'appelle Unité Mnémosine. Ouais, je prononce que des trucs bizarres aujourd'hui. C'est un concept d'EHPAD, on va dire, où on reconstitue minutieusement un village des années 60 pour les personnes dont c'était les années phares. Donc il y a aussi une unité mnémosine pour les années 70, etc. Puis plus on avance dans le temps, puis plus il y aura d'autres décennies. Mais Valentin, il travaille dans les années 60. Il y a donc une sorte d'immersion dans le passé, sans volonté non plus de cacher le présent aux pensionnaires qui auraient un éclair de lucidité. C'est une façon en tout cas originale de traiter le sujet de la mémoire, de la vieillesse, de la perte d'autonomie. Et tout simplement un sujet original de traiter la façon dont on s'occupe de l'humain dans tout ça. Enfin, on se rend vite compte en lisant le rapport de Valentin que lui-même a quelques soucis. Pas de mémoire, mais plutôt d'anxiété ou de sociabilisation. Notre narrateur souffre sans nul doute d'une forme d'autisme, même si le mot n'est jamais employé. Pourtant, ça ne l'empêche pas, trop, de faire ce qu'il a à faire, à sa manière. Ce stage lui permet des rencontres et des évolutions personnelles qu'il n'aurait jamais envisagées avant ça, clairement. Et que la littérature contemporaine et de jeunesse puisse ouvrir le champ des possibles à des publics considérés comme en difficulté, ben je trouve que c'est une belle preuve d'inclusion, comme quoi, quand on veut, eh bien on peut.
Merci Aurore, mais ça tombe parfaitement avec le sujet du roman dont je vais parler, qui parle aussi de l'absence d'autonomie,
Voilà. Donc c'est La Petite Bonne, un premier roman de Bérénice Pichat, qui est enseignante aussi, je crois qu'elle est professeure des écoles. Donc c'est un premier roman prodigieux. On est dans les années 30, le temps d'un week-end dans la banlieue parisienne. Comme son titre l'indique, il parle d'une jeune bonne. On ne saura pas ni son nom, ni son prénom. C'est La Petite Bonne. Courageuse et sérieuse, elle travaille dans diverses maisons. Elle vient d'être embauchée chez les Daniel, un couple de bourgeois dont le mari est une gueule cassée. Il est revenu de la guerre estropié, défiguré, il est en fauteuil roulant et il passe ses journées devant la fenêtre à regarder les passants. Ancien pianiste, virtuose, il n'a plus de main pour jouer. Sa femme s'occupe de lui, toute dévouée, comme aide-soignante. C'est un homme brisé, plein d'amertume, aigri, et il culpabilise de lui voler sa vie. Il la convainc d'accepter l'invitation d'une amie à la rejoindre à la campagne pour 2-3 jours. Elle ne l'a jamais fait. Mais elle profite de la présence de la bonne pour confier son mari à ses soins. Et donc la petite bonne, en plus de faire le ménage, elle va devoir cuisiner et s'occuper de l'infirme. Ce qui implique un rapprochement, une intimité inédite. Et elle va le considérer, le prendre en compte. Lui, de son côté, il a un projet. Et il compte bien sur ces 2 jours pour le réaliser. Il n'est pas des plus accommodants et il a déjà fait fuir un bon nombre de bonnes. Cette fois-ci, il va être surpris, et nous aussi, car rien ne va ne se passer comme prévu. C'est un récit étonnant et avec des scènes d'une beauté absolue. J'ai été subjuguée par plein d'éléments. La façon dont chacun va apprendre à apprivoiser l'autre et essayer de soigner ses blessures, la description du travail des domestiques au début du XXe siècle, l'analyse des rapports sociaux très juste et forte, et aussi l'importance de la musique, qui aide au rapprochement des deux mondes, qui fait lien. Et l'importance, bien sûr, du corps essentiel qui domine toute cette histoire. Et enfin, ce qui est fascinant, c'est la structure narrative et visuelle elle-même, très inventive. On a une écriture en vers libre, sans ponctuation ni coupure, lorsque la bonne s'exprime. Et en prose classique, quand c'est les bourgeois qui s'expriment. 3 styles pour les 3 personnages qui donnent un rythme, une mécanique et une musicalité au roman et permettent aux personnages une introspection partagée avec le lecteur au plus près de leurs émotions. Et une 4e voix complète l'alternance, en vers également, comme une spirale infernale, puisqu'elle annonce dès le début une tragédie et on découvrira seulement à la fin à qui appartient cette voix. J'ai adoré la façon dont la tension est ménagée et va crescendo, c'est remarquable, avec une juste dose d'émotion qui affleure sans envahir. C'est plein d'humanité, sensible, délicat, tout en étant d'une puissance incroyable. C'était La Petite Bonne de Bérénice Pichat. On va passer à notre pause musicale. Je vous propose d'écouter un extrait du dernier album de Brigitte Fontaine. C'est son 20e album en 58 ans. Et c'est l'un des plus rock, à la fois électrique et mélodique. Il est composé par son acolyte fidèle Areski Belkacem et produit par le groupe catalan The Liminas. Pick Up s'impose comme une déclaration d'amour au simple fait d'être vivant, en dépit du temps qui passe et de la vieillesse. Et j'ai choisi le titre « Mariage », très énergique.
Il faut souffrir pour être belle. Pas de pitié pour les femelles. Mon corps tout délabré serpente sur la neige dure et violente. Ça doit être un joli spectacle, horrible et beau, une débâcle. La poupée désarticulée sur la couverture gelée. C'est le matin de mon mariage. Je ne sais pas quel est mon âge. Serpent, miroir qui perd sa peau. Chat échaudé, détestant l'eau. 4 habits noirs au plastron blanc font rouler mes os grimaçant sur un tapis de soie carmin et les chargent sur leur bourrin. Sur le génie de la Bastille, je rejoins mon cher et le maire. Je dis bien oui sous ma mantille. Il dit oui et voilà l'affaire. annulaires éblouissants, les bouches gonflées et jointes. Pluie de pétales, la tête ouinte, toute nappée de cramoisi, un drapeau noir. Je brandis. Les agents de la paix sanglotent. Sur le champagne, le riz flotte. Mon époux me prend sous le tulle. Et tous les invités hurlent.
Tu peux pas intervenir aussi?
Oui, je peux, mais je te laisse la main, Anne, je t'en prie.
Alors, nous avons le plaisir et la chance de recevoir Aurélia Bélanger, qui nous livre un premier roman auto-édité, Les couleurs d'Héléna. C'est l'histoire d'une famille aimante, trois enfants, un chien. La mère est artiste peintre, elle déborde d'énergie. Et le père est directeur de piscine. Le vent tourne à l'arrivée du quatrième enfant. La maman est incapable d'aimer ce bébé, comme elle a aimé les trois précédents. Et elle tombe peu à peu dans ce qu'on appelle communément une dépression postpartum, mais qui peut bien cacher d'autres choses. Le roman se concentre sur l'évolution du mal-être d'Héléna, qui fait des cauchemars, perd son entrain, ne peint plus, ne mange plus, ne rit plus. C'est un roman où j'ai trouvé en fait particulièrement intéressant trois points. Le titre d'abord, qui est très éloquent. Les couleurs d'Héléna. Il établit un parallèle intéressant avec les couleurs que l'artiste utilise sur les toiles qu'elle réalise. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus?
Alors, j'ai voulu mettre en avant l'art dans le titre, puisque l'art a une place importante. C'est un peu un moyen d'expression, un langage non-verbal, en fait. Et donc, les couleurs d'Héléna, parce qu'elle peint pour son loisir, hein, c'est pas son métier, artiste peintre, mais voilà, c'est son moyen d'expression, où elle va tout relâcher sans penser à rien et peindre selon son sentiment,
son inspiration,
voilà, son état d'esprit du moment.
Et j'ai beaucoup aimé le choix d'une narration alternée, notamment avec l'intervention du chien de la famille, qui ressent et observe comme un membre à part entière de la famille. Pourquoi avez-vous voulu faire parler un chien?
Alors, quand on voit les chiens, on leur dit oh « bah, il ne lui manque que la parole, donc j'ai réparé une injustice quelque part ». Alors, c'est la prise de parole du chien est venue de manière très intuitive. Je ne l'avais pas prémédité. À un moment donné, je me suis dit, bon, tiens, là, c'est le chien qui va s'exprimer et puis qui va décaler un petit peu le point de vue, décaler aussi, défocaliser le point de vue du lecteur et permettre d'alléger beaucoup certains passages qui sont plus sombres dans l'histoire, qui et en grande majorité plutôt d'une écriture optimiste, je pense.
Oui. Voilà. Ouais, surtout qu'il a vraiment un ton très, très coquin et il apporte de la légèreté et de l'humour. Je trouve que c'était une très bonne idée, ce chien qui est tout de suite attachant. Et son nom d'ailleurs, il a une signification essentielle, j'ai trouvé dans ce roman, puisqu'il s'appelle Torpeur. Je me suis dit qu'il faisait référence à l'état psychique et physique de sa maîtresse. Est-ce que c'est ce que vous avez voulu exprimer par ce nom?
Alors, les noms de mes personnages, dont le chien, je n'y réfléchis absolument pas en amont. Il s'impose à moi, selon la personnalité que j'imagine. Je pense qu'il y a un petit lien aussi avec le fait que ma propre chienne a eu une portée de chiot l'année des T et qu'on a cherché plein de noms en T. Ah, Torpeur oui. ne faisait pas partie des... de la sélection, mais voilà, il s'est retrouvé dans le roman, je ne sais pas trop comment. Et effectivement, il y a un parallèle avec le personnage que certainement inconscient.
Et s'il était plein d'humour, vous auriez pu l'appeler Torpille, pour le côté un peu incisif qu'il procure pour contrecarrer justement la torpeur mélancolique de sa maîtresse.
C'est peut-être un décalage aussi entre la personnalité du chien qui n'est pas du tout... Enfin, voilà, si, qui aime bien être dans son panier au calme et puis voilà, manger, boire et dormir. Mais voilà, qui est aussi facétieux, qui est assez...
Mais du coup, par son mode de vie, ça peut reprendre justement le point de vue du mari par contraste à celui de sa femme. Je parle en tant qu'homme. Manger, dormir, vautrer dans mon canapé, ça peut avoir du bon par moment.
Alors je vous invite à découvrir les couleurs d'Elena. Vous verrez que le mari est un petit peu différent. Ah,
j'espère pour elle.
Il a un beau rôle.
Il a un grand rôle à jouer.
Voilà.
Et votre roman met l'accent sur l'importance de la famille, des proches. Et chacun a son rôle à jouer dans le processus de guérison. Et le moyen de se sortir de la dépression, et on le voit dans le roman, c'est d'être unis, solidaires et soudés, quoi qu'il en coûte. Et c'est très touchant. Il y a quand même le recours à une personne extérieure. C'est l'onirologue. Je ne connaissais pas ce métier. L'onirologue, il analyse les cauchemars et décrypte les angoisses. On dirait que c'est vrai, toutes ces références. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vécu? Est-ce que vous en avez rencontré un?
Alors, pas du tout, puisque je pensais avoir inventé le mot. Donc, voilà, je me suis dit, bon, il faut quelqu'un pour aider Elena à comprendre ce qu'elle vit. Et voilà, je me suis dit, bon, bah, elle fait des rêves, pourquoi pas un onirologue? Donc, j'ai écrit sans savoir que ce mot existait. Puis après, je me suis dit, bon, je vais quand même regarder. Effectivement, apparemment, ça existe. Donc, je serais ravie d'en rencontrer un vrai. Oui. Mais peut-être que c'est uniquement dans l'imaginaire. Mais bon, apparemment, ça existe. Pour moi, c'est un petit peu le docteur Freud du roman, avec une... la psychanalyse, c'est peut-être quelque chose que je ne maîtrise pas du tout. Enfin, c'est même sûr. Et... Donc, c'est peut-être un terrain dans lequel j'étais pas forcément à l'aise. Donc, un personnage d'accès plus facile m'a enthousiasmée à...
Mais il était bien campé parce que moi j'y ai cru. Je me suis dit, bah, j'ai vraiment le rencontrer.
Non, pas du tout.
Ouais, mais la science des rêves, c'est hyper intéressant. Enfin, du coup, on dit qu'on travaille énormément notre inconscient, etc., quand on dort, et on se souvient déjà pas de tout ce dont on rêve. Mais du coup, c'est hyper cool d'avoir choisi un personnage comme ça, qu'effectivement, on rencontre pas tous les quatre matins, et en même temps, qui peut donner beaucoup de sens à ce qu'on vit.
Je crois que l'inconscient a beaucoup à raconter. Et en fait, dans le roman, ça a une part importante du roman. Et la façon même dont je l'ai écrit, voilà, j'ai laissé aussi mon inconscient parler.
Oui, ça se ressent. Alors, qu'est-ce qui vous a inspiré pour écrire ce roman?
Alors, ce qui m'a inspiré, des rencontres, des amitiés, des observations du monde extérieur. J'ai laissé venir l'histoire, je ne l'ai pas préméditée. J'ai commencé à écrire sans savoir ce qui allait en découler. Et j'ai choisi d'écrire comme si j'étais lectrice et que c'était moi-même qui découvrais l'histoire. Donc c'est... Voilà, ma façon d'avoir abordé...
C'est pas un sujet avec des références autobiographiques?
Non, c'est pas autobiographique. On m'a beaucoup posé la question. Alors, c'est un univers que je connais, la vie de famille, le chien. Ça, c'est un sujet que je maîtrise plus que la psychanalyse, par exemple.
La forêt aussi.
La forêt, voilà.
Et est-ce que vous aviez le désir d'écrire un roman depuis longtemps?
Pas du tout. C'est venu comme un cheveu sur la soupe. J'étais alpha lectrice pour une amie qui m'envoyait ses chapitres au fur et à mesure de son écriture, et je lui renvoyais mes commentaires, mes corrections, et puis je me suis posé la question de ma légitimité à faire ça, moi qui n'avais jamais rien écrit avant et qui n'était même pas de la partie un petit peu sur le ton de la blague. Un jour je lui ai dit, voilà, j'ai commencé mon roman moi aussi, sans trop savoir ce qui allait en découler, mais je lui ai envoyé ce premier chapitre. Et je dis, je t'envoie la suite vendredi. Et tous les vendredis, je lui envoyais la suite. Et le fait est que je me suis prise au jeu et j'ai écrit tous les jours pendant 2 mois pour accoucher de cette histoire. Je crois que
histoire de postpartum.
De cette histoire, voilà. Et ensuite, il y a eu des relectures, des corrections, etc.
On a l'impression que c'était un processus assez facile quand même pour vous.
Deux mois, en vrai, deux mois pour écrire un roman,
Ça va, hein.
Oui, alors c'était rapide, l'histoire est venue rapidement. Et après, je dirais qu'il y a un an de travail derrière.
Enfin, bien sûr, on parle du premier jet quand on parle de deux mois.
Mais puis il y avait la fête des mères aussi comme deadline. Et je voulais offrir les premiers chapitres du roman à ma maman pour la fête des mères. Et comme j'avais pas mal avancé, je me suis dit c'est trop dommage, il faudrait que j'aille jusqu'au bout. Donc je me suis un petit peu dépêchée pour aboutir.
C'est bien ça d'avoir des deadlines comme ça. Ça aide.
Et êtes-vous satisfaite de l'accueil réservé à votre roman ?
Alors j'ai des très bons retours, donc je suis contente d'avoir conquis des lecteurs. Ça me fait vraiment plaisir. J'espère en conquérir d'autres. Vaut mieux que je passe à l'écrit qu'à l'oral. Donc, oui, je suis satisfaite dans le sens où je pense. Le plus gratifiant que j'ai eu, c'est une personne qui m'a dit « Je ne lisais plus. Comme je vous connaissais un petit peu, j'ai acheté votre roman, je l'ai lu et depuis, je me remets à lire. Et qu'est-ce que ça fait du bien ?»
C'est un compliment.
Ouais.
C'est chouette. Et alors, vu qu'on est dans une émission qui conseille de la culture, quels sont vos auteurs de prédilection et quels conseils de lecture contemporaine donneriez-vous à nos auditeurs ?
Alors, j'aime beaucoup de choses, beaucoup d'auteurs de différents univers. Vous avez cité Olivier Norek, je le lis aussi. Alors pour le côté psychologique, j'aime bien Delphine de Vigan. Pour les histoires de vie, j'aime beaucoup David Funkinos. J'ai beaucoup ri au dernier roman autobiographique d'Olivier Bourdeau, Développement personnel. Voilà, je ne me rappelle pas avoir autant ri en fait, dans un roman, parce que c'est plein d'autodérision. J'aime découvrir des univers variés et des lieux de vie variés. Donc, j'ai beaucoup aimé Victoria Hislop, Barbara Kingsolver, Teresa Réveil. Et j'ai un petit chouchou qui est Jean-Paul Didier Laurent pour son originalité, son humour.
Le
liseur du 6h27 et surtout Malamute que je place encore au-dessus du liseur. Voilà. Et sur ma table de nuit en ce moment, j'ai Camille de Peretti et Gaëlle Nohant. Ah. Voilà, donc le bureau d'éclaircissement des destins. Oui. Donc, on a parlé de la période Seconde Guerre mondiale, on y est aussi. Et Camille de Peretti, c'est Le sang des Mirabelles, qui est sur un univers médiéval. Enfin, je trouve sa façon d'écrire assez captivante. Voilà.
Merci beaucoup.
Si je peux me permettre, je voudrais aussi citer mon amie qui m'a amenée à l'écriture, qui est Cécile Lombard et qui est compiègnoise également, qui vient de sortir son deuxième roman.
Celle pour qui tu étais alpha lectrice, du coup ?
C'est ça, La grâce du papillon.
Je l'avais rencontrée quand on fait des présentations de livres à la maison de retraite.
Oui, tout à fait.
On était avec elle, oui. Et d'ailleurs, elle m'avait dit que vous étiez en train d'écrire un livre à quatre mains.
Alors non, on n'écrit pas à quatre mains, mais on écrit ensemble.
D'accord.
On écrit ensemble. Maintenant, on ne s'envoie plus. Enfin, on s'envoie encore ce qu'on a écrit le vendredi, mais on se ménage une plage d'écriture en commun.
Genre un coworking.
Voilà, c'est ça. Ouais, mais chacune,
sur son projet.
Chacune est sur son projet.
Ah oui, c'est cool. Mini résidence.
Oui.
Et justement, avez-vous des projets donc pour un prochain livre précis ?
Alors oui, je suis en train d'écrire donc un second roman. Qui est beaucoup plus structuré, donc beaucoup plus compliqué à écrire pour moi. Ça doit faire plus d'un an que je suis dessus. Hein, parce que celui-là, il ne sortira pas en deux mois. Basé sur une œuvre poétique très connue et avec un challenge un peu particulier qui est que j'espère mener à son terme, à aboutir, qui est d'écrire un roman réversible, donc qu'il puisse se lire
à l'envers, à l'endroit.
Voilà, dans un sens comme dans un autre. Pas comme un immense palindrome, mais comme c'est en six tranches. Voilà. Et je commence par la fin, donc il devrait pouvoir se lire du début à la fin ou de la fin au début.
D'accord.
Et quelle est l'œuvre poétique dont tu parles ?
Alors, c'est Les Fleurs du Mal.
Ah, super.
super.
Voilà, donc un roman plus sombre et psychologique que Les couleurs d'Alina.
Et si des auditeurs et futurs lecteurs souhaitent vous rencontrer, donc j'ai compris que demain vous êtes à Cultura.
Alors je serai à Cultura de la ZAC Jovenette, voilà.
D'accord.
Donc l'après-midi. Je serai également un petit peu plus loin de chez moi le 8 décembre à la librairie Martel à Amiens et le 21 décembre au Dormeur du Val à Chauny.
D'accord. Voilà. Et ben plein de rencontres dédicaces. Voilà. On vous souhaite avec beaucoup de succès.
Merci beaucoup.
Ça s'est bien passé du coup la FNAC le week-end dernier ?
Oui, ça a été. J'ai eu des rencontres, quelques nouveaux lecteurs, et puis des échanges toujours très constructifs et agréables.
Chouette.
Et un très très bon accueil.
Oui, en général, la FNAC, voilà. Ils sont cool pour ça.
Ben, merci beaucoup Aurélia. Donc c'était pour Les couleurs d'Elena, un roman auto-édité et que nous vous conseillons.
Merci beaucoup pour votre invitation.
Il nous reste quelques minutes. Yann va nous donner son point de vue sur la série qui est diffusée en ce moment, Cat's Eyes.
Ah ouais, en plus, j'avais très envie de la regarder. J'ai hâte de t'entendre, Yann.
Alors, attention, passage qui fait mal aux oreilles et petit budget. Ta na 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 na. Cat's Eyes, dou dou dou, signé Cat's Eyes. Bon, bref, on entend cette musique-là. Évidemment, tout le monde dresse l'oreille dès qu'on a vécu dans les années 80. Et on découvre, j'avais entendu parler il y a quelque temps d'un projet de série autour de Cat's Eyes. Et je suis tombé dessus un lundi soir par inadvertance. Et avec madame, on a décidé de regarder cela. On a regardé le pilote qui nous a fait légèrement grincer parce que tout de suite on se dit ah, on va retrouver les épisodes qu'on aimait, etc. Et non. Et on se retrouve avec trois frangines au pied de la tour Eiffel avec une histoire d'art, de vol, un flic qui s'appelle Quentin, bon bref, et de la psychologie qui va vers la guimauve entre les trois frangines avec Tamara qui est partie à 5 ans et qui revient et qui est toujours pareil, désinvolte, alors que Cilia, elle, a la tête sur les épaules et s'occupe de la jeune Alex qui, elle, est la rebelle, etc.
Ça, ça change pas au moins.
Ça change pas. Et donc on se dit oui, aïe. Et on trouve notamment dans le rôle de la voisine Carole Bouquet, on se dit, oh là là, ça y est, ils nous mettent des têtes d'affiche pour faire genre, etc. Et on regarde quand même le deuxième épisode.
Au cas où.
Au cas où. Et... ouais, il y a du mieux, ça s'avance un peu, on retrouve bien certains marqueurs. Quentin qui est assez naïf, voire bené, etc. Mais doucement, la psychologie entre les frangines commence à s'estomper. On commence à avoir plus le côté cambrioleuse, acrobate. Ça fait du bien. Et le troisième épisode, ah, ça y est, on est dedans. Donc ça, c'est plutôt agréable. Ça me fait un peu de mal de dire du bien d'une série de TF1. Mais cette série écrite et créée par Michel Katz, je trouve que le nom, il est... c'est fait pour.
Ça s'invente pas.
Et réalisé par Alexandre Laurent, finalement, c'est pas une si mauvaise, j'ai tellement l'habitude de descendre les séries. C'est pas une si mauvaise série que cela, avec notamment Élodie Fontan en Prudence.
Ah, mais elle est trop marrante.
Mais qui joue une psychopathe. Mais complètement déglingo, avec un flingue qui rappelle bien l'esthétique des mangas, tellement il est démesuré, etc. C'est vraiment... on retrouve, au fur et à mesure que la série déploie ses scénarios, l'esprit du dessin animé. Sans faire un copier-coller, bien sûr, la Tamara du dessin animé qui a été diffusée entre 83 et 85, les meilleures années... était bien plus classe.
Je n'étais pas née, mais puis je les ai regardé dans les années 90, ça marche aussi. Hein.
Et les combinaisons et tout ça, bon, bref, ça me rappelle mon ouverture à une certaine sensibilité dans laquelle je ne développerai pas. Mais la seule différence, c'est au niveau du scénario. Et je trouve que là, par contre, c'est un peu dommage. Parce que dans la série, c'est mon côté pointilleux, dans la série, le père est mort dans sa galerie quelques années auparavant. Et donc, elles essaient de trouver, de résoudre l'énigme, puisque il a laissé une carte SD avec ses secrets, les trucs, et qu'on pourrait retrouver l'assassin, parce que les filles pensent qu'il a été assassiné, etc. Ça parle de trafic d'art, donc c'est intéressant. Mais il est mort suite à un incendie dans sa galerie. Alors que, dans le dessin animé, le père a mystérieusement disparu pendant la Seconde Guerre mondiale. Et là, ça prend une autre ampleur, je trouve, par rapport au trafic d'art, etc., le Japon, la place dans la guerre, etc. Donc, voilà, là-dessus, ils auraient pu faire quelque chose d'un peu plus acide, beaucoup plus grinçant, etc. Donc ça, c'est un peu dommage. Mais, dans l'ensemble, pour l'instant, oui, je peux conseiller de regarder cette série où on va avoir de la nostalgie, mais adaptée à la France et aux années 2024. Et ce n'est pas désagréable. C'est pas une grande série qui va marquer les esprits, mais on rigole bien. On retrouve aussi des éléments du dessin animé qu'on a aimé. Notamment, j'ai bien aimé l'adaptation. Si vous vous rappelez du commissaire, le chef de Quentin, qui surgissait un peu à l'improviste, qui avait un côté un peu ombrageux, mais pas méchant, mais charismatique et qui paraissait un peu étrange parfois dans sa manière de faire. On a Juliette Plumcock qui joue le commissaire, du coup, et par son look, par ce qu'elle dégage, par son jeu. Je trouve qu'on retrouve ça, mais à fond la caisse. Et c'est vraiment une bonne surprise. Quentin est naïf et peut-être même trop bené. Mais on retrouve vraiment des éléments. Par exemple, la camionnette qui s'appelait le sous-marin dans le dessin animé. Bah là, ils ont repris genre un Renault Trafic bleu. Mais en fait, c'est marrant. On retrouve ça, mais pas avant le quatrième épisode où vraiment on retrouve l'univers Cat Size. Puis on a de la musique des années 80 et tout, c'est un peu drôle, voilà. Et il y a quand même la chanson générique qui manque un tout petit peu de peps au niveau des paroles, je trouve. Pourtant, ce sont les mêmes paroles, mais voilà.
C'est l'interprétation qui diffère.
Oui, mais ils se débrouillent toujours mieux que moi, heureusement pour eux. Voilà, donc pas une mauvaise série, mais... puisque on est quand même, faut penser au printemps avec optimisme, voilà, qui montre qu'il a besoin encore de faire ses preuves, mais allez, soyons optimistes. En tout cas, vous passerez un bon moment un lundi soir pour retrouver un peu de nostalgie dépoussiérée.
Merci Yann. Merci. Moi aussi, ça donne envie de rattraper les premiers épisodes.
Ouais, carrément.
Plutôt en replay, plaisir. Parce que les coupures pub de TF1, par contre, ça, j'y arriverai jamais. En 6 minutes de pub, quand même, ça fait mal.
C'est pour ça que c'est mieux en replay, en fait.
Ouais.
Quand il n'y a pas de pub non plus, parce que des fois, ils nous imposent quand même.
Maintenant, ils en imposent aussi.
Ouais. Donc, c'était le rendez-vous culture des bibliothèques. Nous avons parlé de la série Cat Size, des romans Le Tatoueur d'Auschwitz d'Heather Morris, Les Guerriers de l'Hiver d'Olivier Norek, La Chair du Silence d'Emmanuel Vilsain, c'est un recueil de poèmes, les romans H Tendre de Clémentine Beauvais, La Petite Bonne de Bérénice Pichat et Les Couleurs d'Héléna d'Aurélia Bélanger. Demain, samedi 23 novembre, à la bibliothèque Mourichon, nous vous proposons un atelier Dans mes cordes avec Alexis Doche autour de la guitare. Ce sera dans l'espace jeunesse. Venez découvrir l'histoire et la diversité des guitares et des univers musicaux qu'elles ont permis d'ouvrir.
C'est pas à Saint-Co ?
C'est à Mourichon ? C'est à Saint-Carnet ?
Il me semble que c'est à Saint-Carnet.
Alors c'est
parce qu'il y a le concert le soir.
Ouais, mais il y a aussi demain une conférence des cyberbases à la même heure.
Ouais, mais c'est en espace jeunesse.
Ah, bah oui. Donc en espace jeunesse à Saint-Corneille, l'atelier sur la guitare, où Alexis Doche nous embarque dans une aventure, une rencontre des peuples et du génie de quelques inventeurs.
Et la conférence des cyberbases, elle sera sur la prise de notes avec le mind mapping, appelé aussi carte heuristique ou carte mentale. C'est à 14h30. Et surtout, nous sommes en plein cœur du Festival du film de Compiègne, qui en est à sa 23e édition. Ne manquez pas les avant-premières ce week-end des films Maya, une épopée finlandaise, Sarah Bernard, la divine, Le Déluge et Saint-Ex. Notre prochain rendez-vous culture à la bibliothèque.
Excuse-moi, Anne, du coup, Alexis Doche, du coup, il fait son atelier l'après-midi. Le soir, il est en concert à Saint-Corneille.
Ouais.
Je vous conseille vraiment parce qu'il est trop bien. En plus, il va être en duo, donc il y aura une voix féminine avec lui. Et du coup, c'est vraiment un chanteur d'aujourd'hui avec des chansons à texte qui se prend pas la tête, mais qui a un petit côté engagé, écolo, mais très chouette, quoi. Enfin, c'est quelqu'un qui rayonne vraiment, et voilà, je vous le conseille.
Et le concert, c'est en accès libre
ou... Absolument.
Parfait. Donc demain soir.
Excuse-moi.
C'est dans le cloître ?
Oui, c'est au cloître, ouais, dans la salle du cloître.
Ok.
Notre prochain rendez-vous culture à la bibliothèque, c'est le vendredi 13 décembre à 18h. Venez nombreux. Et nous vous retrouvons sur Graphite le vendredi 20 décembre à 18h pour notre émission Les rendez-vous culture des bibliothèques. Merci beaucoup Aurélia, Yann et Aurore.
Merci.
Et très bon week-end à tous.